Conference Center at Temple Square.
Diffusé depuis le centre de conférence de Temple Square à Salt Lake City, voici la session du samedi après-midi de la 185e conférence générale d'avril de l'Église de Jésus-Christ des Saints des derniers jours. Avec des orateurs choisis parmi les autorités générales et les officiers généraux de l'Église. La musique de cette session sera interprétée par un chœur composé de membres de pieux d'adultes seuls, des comtés de Davis et Weber. Cette émission est diffusée à titre de service public par Bonneville Distribution. Toute reproduction, enregistrement, transcription ou autre utilisation de cette émission sans autorisation écrite est interdite. Henry B. Ehring, premier conseiller dans la première présidence de l'Église, dirigera cette session. Frères et sœurs, nous vous souhaitons la bienvenue à la session du samedi après-midi de la 185e conférence générale de l'Église de Jésus-Christ des Saints des derniers jours. Thomas S. Monson, qui préside cette conférence, m'a demandé de diriger cette session. Nous saluons toutes les personnes qui se trouvent dans cette assemblée ou qui suivent cette réunion à la télévision, à la radio ou sur Internet. Nous souhaitons également la bienvenue aux personnes qui regardent la conférence dans les centres de pieux, dans différentes parties du monde où la conférence est diffusée par satellite. Nous saluons les autorités générales et officiers généraux qui seront présents tout au long de cette conférence. La musique de cette session sera interprétée par un chœur de jeunes adultes seuls, résidant dans les comtés de Davis et Weber, sous la direction de Sonia Sperling, avec Bonnie Goodliffe et Linda Margetts à l'orgue. Le chœur ouvrira cette session en chantant le cantique « Louange à Dieu ». La prière d'ouverture sera ensuite faite par Jean Stevens, première conseillère dans la présidence générale de la primaire.
Thank you. Our Father in heaven,
notre Père céleste, nous venons humblement devant toi à cette conférence en tant qu'enfants de Dieu et nous t'exprimons notre amour ainsi qu'à ton Fils. Nous te remercions pour les bénédictions de l'Évangile rétabli de Jésus-Christ qui nous permet de savoir notre but dans cette vie. Nous te remercions pour le prophète Thomas S. Manson. Nous le soutenons de tout notre cœur avec ses conseillers, les 12 et tous ceux qui participent à cette œuvre. Nous prions pour ceux qui participeront cet après-midi par leur message ou par la musique. Et nous prions ainsi pour que l'Esprit se déverse sur nous et que nous recevions le cœur ouvert, les messages. À cette époque de Pâques, nous te remercions pour le sacrifice de ton Fils, sa vie parfaite, son obéissance parfaite et son amour parfait qui nous a été donné pour nous racheter. Puisse ces vérités imprégner notre cœur. Et nous prions pour cela au nom de Jésus-Christ. Amen.
President Dieter F. Uchtdorf, second counselor.
Dieter Uchtdorf, deuxième conseiller dans la première présidence, va maintenant présenter les officiers généraux et les 70 interrégions de l'Église pour un vote de soutien. Après quoi, Kevin Jurgensen, directeur général du département d'appurement de l'Église, lira le rapport de son département. Il sera suivi de Brooke Hales, secrétaire de la première présidence, qui présentera le rapport statistique de l'Église pour l'année 2014.
Brothers and sisters,
frères et sœurs, il nous est proposé de soutenir Thomas Spencer Monson comme prophète, voyant et révélateur, et président de l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours. Henry Bennion Ehring comme premier conseiller dans la première présidence, et Dieter Friedrich Uchtdorf comme deuxième conseiller dans la première présidence. Ceux qui sont d'accord peuvent le manifester. S'il y a des avis contraires, veuillez le manifester. Le vote a été noté. Il nous est proposé de soutenir Boyd Kenneth Packer comme président du Collège des 12 apôtres et les membres suivants du dit collège. Boyd Packer, L. Tom Perry, Russell Nelson, Dallin Oaks, Russell Ballard, Richard Scott, Robert Hales, Jeffrey Holland, David Bednar, Quentin Cook, Todd Christofferson et Neil Anderson. Que ceux qui sont d'accord le manifestent. S'il y a des avis contraires, veuillez le manifester. Le vote a été noté. Il nous est proposé de soutenir les conseillers dans la première présidence et les 12 apôtres comme prophètes, voyants et révélateurs. Que tous ceux qui sont d'accord le manifestent. Les avis contraires, s'il y en a, par le même signe. Le vote a été noté. Il nous est proposé de relever à dater du 1er mai 2015, les 70 d'interrégion suivants.
Philip K. Bussi, René J. Caprera, Renato Capelletti, Paul D. M. Christensen, Samuel W. Clark, Rogerio G. R. Cruz, George R. Donaldson, Ini B. Ekong, Christian H. Fingerle, Greg G. Fisher, Jerry L. Garnes, M. Keith Giddens, Alan D. Haney, Zhu Zhang Huan, George
M. Keel, Von G. Keach, Katsumi Kusumi, German Laboriel, J. Christopher Lansing, Gustavo Lopez, Dmitry V. Marchenko, Peter F. Muirs, T. Jackson Cabela, Hugo Montoya, Valentin F. Nunez, He Keun Oh, Jeffrey E. Olsen, R. Ingvar Olsen, Norbert K. Unlö, Robert N. Pecker, Nathaniel R. Payne, Cesar R. Perez Jr., Michael J. Real, Edson D. G. Ribeiro, Brad K. Reisenmay, Walter C. Selden, Mozart B. Soares, Carlos Solis, Norland Sousa, Vern P. Stanfill, T. Marama Tarati, Kusu Tashiro, Ruben D. Torres, Omar Villalobos, Jack D. Ward, Alan J. Webb, Gerardo J. Wilhelm, Jim L. Wright.
Que ceux qui souhaitent se joindre à nous pour exprimer leur reconnaissance à ses frères pour leur excellent service, le manifeste. Il nous est proposé de relever avec une profonde gratitude David Beck, Larry Gibson et Rand Reed qui formaient la présidence générale des jeunes gens. Nous annonçons aussi la relève de toute la présidence générale de la primaire. Nous exprimons aussi la relève de Jean Stevens, de son appel de première conseillère à la présidence générale de la primaire, et de Cheryl Esplin en tant que deuxième conseillère dans la présidence générale de la primaire. Que tous ceux qui souhaitent se joindre à nous pour exprimer leur reconnaissance à ses frères et sœurs pour leur dévouement et leur excellent service le manifestent. Il nous est proposé de soutenir, comme nouveaux membres du premier collège des 70, Kim Clark, Von Kitsch, Alan Eni, Hugo Montoya et Vern Stanfill. Que tous ceux qui sont d'accord le manifestent. Les avis contraires par le même signe. Il nous est proposé de soutenir comme nouveau 110 d'interrégion.
José M. Patasha, Lawrence P. Blanc, Bradford C. Bowen, Mark A. Bragg, Sergio Luis Carboni, Armando Carrion, S. Mark Clay Jr., Z. Dominique Di Caie, Osvaldo R. Diaz, Michael M. Dudley, Mark P. Durham, James E. Evanson, Pascual F. Fortunato, Patricio M. Jufra, Daniel P. Hall, Toru Hayashi, Paul F. Hintze, J.K. Chukwuemeka Igwe, Zeung Hon Ko, Mingxiong Quan, Johnny L. Leota, Carlo M. Lesano, Joel Martinez, J. Vaughn MacArthur, Kyle S. McKay, Hilleman Montejo, A. Fabio Moscoso, Michael R. Murray, Norman R. Nemro, S. Mark Palmer, Ferdinand P. Pangan, Jairus C. Pedes, Stephen M. Peterson, Wolfgang Pilz, J. D. Pimentel, John C. Pingree Jr., Edvaldo B. Pinto Jr., Evan R. Schmutz, K. David Scott, Paul H. Sinclair, Benjamin T. Zinju, Rulon F. Stacy, David L. Stapleton, Carl M. Tillman, William R. Titera, Zaiji Tokusawa, Carlos R. Toledo, Cesar E. Villar, Juan Pablo Villar, David T. Warner, Gary K. Wild, and Robert K. William. All in favor, please manifest it.
Que tous ceux qui sont d'accord le manifestent. Les avis contraires, s'il y en a. Il nous est proposé de soutenir Cheryl Esplin pour qu'elle serve maintenant en tant que première conseillère dans la présidence générale de la primaire et Marie Durham en tant que deuxième conseillère. Il nous est aussi proposé de soutenir frère Stephen Owen en tant que président général des jeunes gens, avec Douglas D. Holmes comme premier conseiller et Mont Joseph Pro comme deuxième conseiller. Ceux qui sont d'accord peuvent le manifester. S'il y a des avis contraires, veuillez le manifester. Frère Monson, le vote a été noté. Nous invitons les personnes qui ont exprimé des avis contraires à prendre contact avec leur président de pieu. Frères et sœurs, nous vous remercions de votre foi et de vos prières en faveur des dirigeants de l'Église. Nous invitons toutes les nouvelles autorités générales et les nouveaux membres des présidences auxiliaires à prendre place sur l'estrade. Les voici.
As announced, Kevin
comme annoncé, Kevin Jorgensen lira le rapport d'appurement de l'Église. Il sera suivi par Brooke Hales, qui lira le rapport statistique de l'Église pour 2014.
À la première présidence de l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours. Chers frères, comme le prescrit la révélation de la section 120 des Doctrines et Alliances, c'est le conseil d'affectation de la dîme, composé de la première présidence, du collège des 12 apôtres et de l'épiscopat président, qui autorise les dépenses faites à partir des fonds de l'Église. Les départements de l'Église doivent dépenser les fonds selon les budgets approuvés et conformément aux règles et modalités de l'Église. Le département d'appurement de l'Église, qui est composé de professionnels certifiés et est indépendant de tous les autres départements de l'Église, a la responsabilité de faire des appurements dans le but de fournir une assurance raisonnable concernant les contributions reçues et les dépenses faites, et aussi de protéger les biens de l'Église. Suite à nos vérifications, le département d'appurement de l'Église estime que, dans tous leurs aspects significatifs, les dons reçus, les dépenses faites et les ressources de l'Église au cours de l'exercice 2014 ont été enregistrés et administrés conformément aux pratiques comptables appropriées, aux budgets approuvés et aux règles et modalités de l'Église. L'Église applique les habitudes enseignées à ses membres de vivre dans les limites d'un budget, d'éviter les dettes et d'épargner en cas de besoin. Respectueusement, le département d'appurement de l'Église, Kevin R. Jorgensen, directeur général. Pour l'information des membres de l'Église, la première présidence a publié le rapport statistique suivant sur la croissance et la situation de l'Église au 31 décembre 2014. Le nombre total de pieux s'est élevé à 3114, avec 406 missions, 561 districts et 29 621 paroisses et branches. Le nombre total des membres est de 15 372 337. En 2014, le nombre de nouveaux enfants inscrits dans l'Église était de 116 409 et 296 803 convertis baptisés. Au 31 décembre, il y avait 85 147 missionnaires à plein temps et 30 404 missionnaires des services de l'Église dans le monde. Trois temples ont été consacrés en 2014, le temple de Gilbert en Arizona, celui de Fort Lauderdale en Floride et celui de Phoenix en Arizona. Le temple d'Ogden en Utah a été reconsacré en 2014. À la fin de l'année, le nombre total de temples en service était de 144.
The choir will now favor us with...
Le chœur va maintenant interpréter Merveilleux l'amour. Après le chant, nous entendrons David Bednar et D. Todd Christofferson du Collège des Douze Apôtres.
Crucified, that for me a sinner. He Je me rappelle comme si c'était hier une expérience que j'ai vécue quand j'étais jeune garçon. Un jour, pendant que je jouais avec mes amis, j'ai cassé accidentellement la vitrine d'un magasin près de chez nous. Quand le carreau s'est brisé et que la sirène a retenti, mon cœur et mes pensées ont été paralysés par la peur. Je me suis rendu compte aussitôt que j'allais être condamné à passer le reste de ma vie en prison. Mes parents ont fini par me persuader de sortir de ma cachette sous mon lit et m'ont aidé à présenter mes excuses au propriétaire du magasin. Heureusement, ma peine de prison a été commuée. La peur que j'ai ressentie était écrasante et réelle. Vous avez sans doute éprouvé des appréhensions bien plus grandes en apprenant que vous aviez un problème personnel de santé, en découvrant qu'un membre de votre famille était en difficulté ou en danger, ou en voyant dans le monde des événements préoccupants. Dans de tels cas, des sentiments bouleversants de peur surgissent à cause de l'imminence du danger, de l'incertitude ou de la lourdeur, de la douleur, et à cause d'expériences inattendues, parfois soudaines, et susceptibles de mal finir. Dans notre vie quotidienne, d'innombrables reportages de violences criminelles, de famines, de guerres, de corruption, de terrorisme, d'abandon des valeurs, de maladies et de forces destructrices de la nature peuvent provoquer peur et appréhension. Il ne fait pas de doute que nous vivons à l'époque que le Seigneur a prédite, et en ce jour, toute la terre sera en tumulte et le cœur des hommes leur manquera. Mon but est de décrire la façon dont la peur est dissipée par une connaissance correcte du Seigneur Jésus-Christ et par la foi en lui. Je prie pour que le Saint-Esprit bénisse chacun de nous tandis que nous réfléchissons ensemble à ce sujet important. Après avoir pris du fruit défendu, dès qu'ils ont entendu la voix de Dieu, Adam et Ève se sont cachés dans le jardin d'Éden. Dieu a appelé Adam en demandant « Où es-tu ?» Adam a répondu « J'ai entendu ta voix et j'ai eu peur. » Il est à noter que l'un des premiers effets de la chute était qu'Adam et Ève ont connu la peur. Cette émotion puissante est un élément important de notre existence mortelle. Un exemple tiré du livre de Mormon souligne le pouvoir qu'a la connaissance du Seigneur de dissiper la peur et d'apporter la paix même face à une grande adversité. Dans le pays des Lames, les concitoyens d'Alma étaient effrayés par l'armée lamanite qui approchait. Mais Alma s'avança et se tint parmi eux, et les exhorta à ne pas être effrayés, mais à se souvenir du Seigneur leur Dieu, et il les délivrerait. C'est pourquoi ils firent taire leurs craintes. Notez que ce n'est pas Alma qui fait taire les craintes du peuple. En fait, Alma conseille aux croyants de se souvenir du Seigneur et de la délivrance que lui seul peut accorder. Et la connaissance de la protection du Sauveur qui veille sur eux a permis aux gens de faire taire leurs craintes. La connaissance correcte du Seigneur et la foi en lui nous donnent le pouvoir de faire taire nos craintes parce que Jésus-Christ est la seule source de paix durable. Il a déclaré « Apprends de moi et écoute mes paroles. Marche dans l'humilité de mon esprit et tu auras la paix en moi. » Le maître a aussi expliqué « Celui qui accomplit les œuvres de la justice recevra sa récompense, c'est-à-dire la paix dans ce monde et la vie éternelle dans le monde à venir. » Si nous avons confiance et de l'assurance en Christ, et si nous nous appuyons fermement sur ses mérites, sa miséricorde et sa grâce, produisent du fait de son expiation l'espérance et la résurrection à la vie éternelle. Cette foi et cette espérance nous permettent d'avoir la douce paix de la conscience à laquelle nous aspirons tous. Le pouvoir de l'expiation rend le repentir possible et apaise le désespoir causé par le péché. Il renforce aussi notre capacité de voir, d'agir, et de devenir bon d'une manière que nous ne pourrions jamais entrevoir ni accomplir avec nos capacités limitées de mortels. Oui, l'une des grandes bénédictions qu'ont les disciples dévoués est la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence. La paix que le Christ nous donne permet de voir la condition mortelle dans la perspective précieuse de l'éternité et nous confère une fermeté spirituelle qui nous aide à rester constamment concentrés sur notre destination céleste. Ainsi, nous pouvons avoir la bénédiction de faire taire nos craintes parce que sa doctrine nous donne un but et une direction dans tous les aspects de la vie. Ses ordonnances et ses alliances nous fortifient et nous réconfortent dans les bons moments comme dans les mauvais. Et l'autorité de sa prêtrise nous donne l'assurance que les choses qui comptent le plus peuvent durer dans le temps et l'éternité. Mais pouvons-nous faire taire les craintes qui nous assaillent si facilement et si fréquemment dans le monde contemporain? La réponse à cette question est un oui sans équivoque. Il y a trois principes de base à observer absolument pour recevoir ces bénédictions dans notre vie. Premièrement, regarder vers le Christ. Deuxièmement, bâtir sur la fondation du Christ. Et troisièmement, aller de l'avant avec foi au Christ. Premièrement, regarder vers le Christ. Le conseil qu'Alma a donné à son fils Elamant s'applique précisément à chacun de nous aujourd'hui. Oui, veille à regarder vers Dieu et à vivre. Nous devons regarder vers le Sauveur et avoir le regard fermement fixé sur lui en tout temps et en tout lieu. Rappelez-vous les apôtres du Seigneur ballottés sur un bateau au milieu de la mer. Jésus est allé vers eux en marchant sur l'eau. Mais ne le reconnaissant pas, ils poussèrent des cris de frayeur. Jésus leur dit, « Rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. » Pierre lui répondit, « Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. » Et il dit, « Viens. » Alors Pierre marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Mais voyant que le vent était fort, il eut peur. Il commença à s'enfoncer et s'écria, « Seigneur, sauve-moi !» Aussitôt, Jésus étendit la main, le saisit et lui dit, « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté ?» Je m'imagine Pierre réagissant avec ferveur et immédiatement à l'invitation du Sauveur. Les yeux fixés sur Jésus, il saute hors de la barque et marche miraculeusement sur l'eau. Ce n'est que lorsque son regard est détourné par le vent et les vagues qu'il prend peur et commence à sombrer. Nous pouvons avoir la bénédiction de vaincre nos craintes et de fortifier notre foi en suivant l'instruction du Sauveur. Tournez-vous vers moi dans chacune de vos pensées. Ne doutez pas, ne craignez pas. Deuxièmement, bâtir sur la fondation du Christ. Élamant a adressé cette exhortation à ses fils Néphi et Léhi. Souvenez-vous, souvenez-vous, que c'est sur le roc de notre Rédempteur, qui est le Christ, le Fils de Dieu, que vous devez bâtir votre fondation, afin que lorsque le diable enverra ses vents puissants, oui, ses traits dans le tourbillon, oui, lorsque toute sa grêle et sa puissante tempête s'abattront sur vous, cela n'ait aucun pouvoir sur vous pour vous entraîner en bas, jusqu'au gouffre de misère et de malheur sans fin, à cause du roc sur lequel vous êtes bâti, qui est une fondation sûre, une fondation telle que si les hommes construisent sur elle, ils ne peuvent tomber. Frères et sœurs, les ordonnances et les alliances sont les éléments de construction que nous utilisons pour édifier notre vie sur la fondation du Christ et de son expiation. Nous sommes fermement liés au Sauveur quand nous recevons dignement les ordonnances et contractons les alliances, que nous nous souvenons fidèlement de ces engagements sacrés et les honorons, et que nous faisons de notre mieux pour vivre en accord avec les obligations que nous avons acceptées. Et ce lien est source de force spirituelle et de stabilité à toutes les époques de notre vie. Nous pouvons recevoir la bénédiction de faire taire nos craintes lorsque nous établissons fermement nos désirs et nos actes sur la fondation sûre du Sauveur à travers nos ordonnances et nos alliances. Troisièmement, allez de l'avant avec foi au Christ. Néphi a déclaré, « C'est pourquoi vous devez marcher résolument avec constance dans le Christ, ayant une espérance d'une pureté parfaite et l'amour de Dieu et de tous les hommes. C'est pourquoi, si vous marchez résolument, vous faisant un festin de la parole du Christ, et persévérez jusqu'à la fin, voici, ainsi dit le Père, vous aurez la vie éternelle. La persévérance et la rigueur décrites dans ce verset sont le résultat d'une compréhension et d'une vision spirituelle, de persistance et de patience, et de la grâce de Dieu. Le fait d'exercer notre foi en Jésus-Christ, en son saint nom, de nous soumettre humblement à sa volonté et à son calendrier dans notre vie, et de reconnaître sa main en toutes choses, suscite les choses paisibles du royaume de Dieu, qui apporte la joie et la vie éternelle. Même lorsque nous rencontrons des difficultés et faisons face aux incertitudes de l'avenir, nous pouvons persévérer avec joie et mener une vie paisible et tranquille en toute piété et honnêteté. Nous pouvons avoir la bénédiction de faire taire nos craintes en recevant le courage qui nous est donné lorsque nous apprenons et appliquons les principes de l'Évangile et que nous allons résolument de l'avant sur le chemin d'alliance. Une crainte différente et à la fois apparentée aux peurs que nous éprouvons souvent est ce que les Écritures appellent la crainte de Dieu ou la crainte du Seigneur. Contrairement à la crainte selon le monde qui suscite l'inquiétude et l'anxiété, la crainte de Dieu est source de paix, d'assurance et de confiance. Mais comment une chose qui est associée à la peur peut-elle édifier ou aider spirituellement? La crainte juste que j'essaie de décrire inclut un profond sentiment de révérence, de respect et d'admiration à l'égard du Seigneur Jésus-Christ. Et l'attente impatiente, l'obéissance à ses commandements, et l'attente impatiente du jugement dernier et de la justice qu'il rendra. Par conséquent, la crainte de Dieu naît d'une compréhension correcte de la nature et de la mission divine du Seigneur Jésus-Christ, d'une disposition à soumettre notre volonté à la sienne, et du fait de savoir que chaque homme et chaque femme devront rendre compte de leurs propres péchés au jour du jugement. Comme l'attestent les Écritures, la crainte de Dieu est le commencement de la science. Elle enseigne la sagesse, elle est un appui ferme et elle est une source de vie. Vous remarquerez que la crainte de Dieu est inextricablement liée à la compréhension du jugement dernier et de notre responsabilité individuelle vis-à-vis de nos désirs, pensées, paroles et actes. Craindre le Seigneur, ce n'est pas appréhender avec réticence de nous retrouver en sa présence pour être jugés. Je ne crois pas que nous aurons peur de lui du tout. En fait, c'est la perspective de devoir, en sa présence, regarder en face les choses qui nous concernent telles qu'elles sont vraiment et avoir la connaissance parfaite de toutes nos justifications, prétextes et égarements. À la fin, nous n'aurons plus aucune excuse. Quiconque a vécu ou vivra ici-bas, comparaîtra devant la barre de Dieu pour être jugé par lui selon ses œuvres, qu'elles soient bonnes ou qu'elles soient mauvaises. Si nous avons désiré la justice et fait de bonnes œuvres, alors la barre du jugement sera agréable. Et au dernier jour, notre récompense sera la justice. À l'inverse, si nos désirs se sont portés sur le mal, et si nos œuvres ont été mauvaises, alors nous redouterons la barre du jugement. Nous n'oserons pas lever les yeux vers notre Dieu, et nous serions heureux si nous pouvions commander aux rochers et aux montagnes de tomber sur nous pour nous cacher de sa présence. Et au dernier jour, notre récompense sera le mal. Comme le résume l'Ecclésiaste, crains Dieu et observe ses commandements. C'est là ce que doit tout homme. Car Dieu amènera toute œuvre en jugement au sujet de tout ce qui est caché, soit bien, soit mal. Mes chers frères et sœurs, la crainte de Dieu dissipe la crainte humaine. Elle apaise même l'inquiétude qui nous hante de ne jamais être capable d'être suffisamment bon spirituellement et de ne jamais être à la hauteur des conditions et des attentes du Seigneur. En réalité, nous ne pouvons jamais l'être si nous ne comptons que sur nos propres capacités et accomplissements. Nos œuvres et nos désirs seuls ne nous sauvent pas. Une fois que nous avons fait tout ce que nous pouvons, nous ne sommes sauvés que par la miséricorde et la grâce résultant du sacrifice expiatoire infini et éternel du Sauveur. Il ne fait pas de doute que nous croyons que grâce au sacrifice expiatoire du Christ, tout le genre humain peut être sauvé en obéissant aux lois et aux ordonnances de l'Évangile. Craindre Dieu, c'est l'aimer et avoir confiance en lui. Lorsque nous craignons Dieu davantage, nous l'aimons plus parfaitement. Et l'amour parfait bannit la crainte. Je vous fais la promesse que la lumière de la crainte de Dieu chassera les ténèbres des craintes humaines. Si nous regardons vers le Sauveur, si nous bâtissons sur sa fondation, et si nous allons de l'avant sur son chemin d'alliance avec engagement et consécration, j'aime et je révère le Seigneur. Son pouvoir et sa paix sont réels. Il est notre Rédempteur et je témoigne qu'il vit. Et grâce à lui, notre cœur n'a pas à être troublé ou à s'alarmer et nous aurons la bénédiction de pouvoir faire taire nos craintes. J'en témoigne au nom sacré de Jésus-Christ. Amen.
Above the great west door of the renowned Westminster Abbey in London, England,
au-dessus de la grande porte ouest de l'abbaye de Westminster à Londres, se trouvent 10 statues de martyrs chrétiens du XXe siècle. Dietrich Bonhoeffer, brillant théologien allemand, né en 1906, en fait partie. Ce dernier critiqua ouvertement la dictature nazie et son traitement des Juifs et des autres peuples. Il fut emprisonné pour son opposition active et fut finalement exécuté dans un camp de concentration. Dietrich Bonhoeffer était un écrivain très prolifique, et certaines de ses œuvres les plus connues sont des lettres que les gardes compatissants l'ont aidé à faire sortir clandestinement de prison, qui ont été publiées plus tard sous le titre « Lettres et notes de captivité ». Une de ces lettres était adressée à sa nièce avant son mariage. Elle comprenait cette perspective importante, je cite, « Le mariage est plus grand que votre amour réciproque. Dans votre amour, vous vous voyez tous deux seuls au monde. Dans le mariage, vous êtes un maillon dans la chaîne des générations que Dieu fait vivre et mourir pour sa gloire et qu'il appelle dans son royaume. Dans votre amour, vous ne voyez que le ciel de votre bonheur personnel. Mais dans le mariage, vous êtes placé à un poste de responsabilité à l'égard du monde et de l'humanité. Votre amour n'appartient qu'à vous, et personnellement. Le mariage, lui, est quelque chose de supra-personnel. Il est un état, un ministère. Tout comme c'est la couronne qui fait le roi et non sa volonté de régner, ainsi c'est le mariage et non votre amour l'un pour l'autre qui vous unit devant Dieu et devant les hommes. Ainsi l'amour vient de vous, et le mariage, lui, vient d'en haut, de Dieu. » Fin de citation. De quelle manière le mariage entre un homme et une femme transcende-t-il leur amour l'un pour l'autre et leur propre bonheur les place à un poste de responsabilité à l'égard du monde et de l'humanité? En quoi vient-il d'en haut de Dieu? Pour comprendre, nous devons remonter au commencement. Les prophètes ont révélé que nous existions tout d'abord en tant qu'intelligence, et que Dieu nous a formés en nous donnant un corps d'esprit. Et nous sommes ainsi devenus ses enfants d'esprit, des fils et des filles de parents célestes. Un temps est venu dans cette existence prémortelle des esprits, où afin de réaliser son désir, que nous ayons la possibilité de progresser comme lui, notre Père Céleste a préparé un plan qui nous le permettrait. Dans les Écritures, on l'appelle de diverses manières, notamment le plan de salut, le grand plan du bonheur et le plan de rédemption. Les deux objectifs principaux de ce plan ont été expliqués à Abraham en ces termes. Et il y en avait un parmi eux qui était semblable à Dieu. Et il dit à ceux qui étaient avec lui, « Nous descendrons, car il y a de l'espace là-bas. Nous prendrons de ces matériaux et nous ferons une terre sur laquelle ceux-là pourront habiter. Nous les mettrons ainsi à l'épreuve pour voir s'ils feront tout ce que le Seigneur, leur Dieu, leur commandera. Ceux qui gardent leur premier état recevront davantage. ceux qui gardent leur second état recevront plus de gloire sur leur tête pour toujours et à jamais. Grâce à notre Père Céleste, nous étions déjà devenus des êtres d'esprit. Il nous offrait à présent un moyen de compléter ou perfectionner cet être. L'ajout de cet élément physique est essentiel pour avoir une plénitude de l'existence et de la gloire que Dieu lui-même possède. Si, en étant avec Dieu dans le monde des esprits prémortels, nous acceptions de participer à son plan, ou en d'autres termes, si nous gardions notre premier état, nous recevrions davantage avec un corps physique en venant demeurer sur la terre qu'il a créée pour nous. Si au cours de notre existence mortelle, nous choisissions alors de faire tout ce que le Seigneur notre Dieu nous commanderait, nous garderions notre second état. Cela signifie que, par nos choix, nous montrerions à Dieu et à nous-mêmes notre engagement à vivre sa loi céleste et notre capacité de le faire hors de sa présence et dans un corps physique, avec tous ses pouvoirs, ses appétits, ses passions. Pourrions-nous tenir en bride la chair afin qu'elle devienne l'instrument de l'esprit et non son maître? Pourrions-nous nous voir confier dans le temps et dans l'éternité des pouvoirs divins, notamment le pouvoir de créer la vie? Vaincrions-nous individuellement le mal? Ceux qui le feraient recevraient plus de gloire sur leur tête pour toujours et à jamais. Un aspect très important de cette gloire étant un corps ressuscité, immortel et glorifié. Il n'est pas étonnant que nous ayons poussé des cris de joie en découvrant ces possibilités et ces promesses magnifiques. Quatre choses au moins étaient nécessaires à la réussite de ce plan divin. La première était la création de la terre où nous demeurerions. Quels que soient les détails du processus de la création, nous savons qu'elle n'a pas été accidentelle, mais qu'elle a été dirigée par Dieu le Père et mise en œuvre par Jésus-Christ. Toutes choses ont été faites par lui, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans lui. La deuxième était la condition mortelle. Adam et Ève ont agi pour tous ceux qui avaient choisi de participer au grand plan du bonheur de notre Père. Leur chute a créé les conditions nécessaires à notre naissance physique et à une expérience mortelle et une progression hors de la présence de Dieu. Avec la chute est venue la connaissance du bien et du mal et le pouvoir divin de choisir. Finalement, la chute a apporté la mort physique nécessaire pour rendre notre condition mortelle temporaire, afin que nous ne vivions pas dans nos péchés pour toujours. La troisième était la rédemption de la chute. Nous voyons le rôle de la mort dans le plan de notre Père Céleste, mais ce plan serait vain s'il n'existait pas un moyen de vaincre la mort physique et spirituelle à la fin. Ainsi, un Rédempteur, le Fils unique de Dieu, Jésus-Christ, a souffert et est mort pour expier la transgression d'Adam et Ève, offrant ainsi la résurrection et l'immortalité à tous. Et puisqu'aucun de nous n'aurait été parfaitement et constamment obéissant à la loi de l'Évangile, son expiation nous rachète aussi de nos péchés si nous nous repentons. Étant donné que la grâce expiatoire du Sauveur apporte le pardon des péchés et la sanctification de l'âme, nous pouvons naître de nouveau spirituellement et être réconciliés avec Dieu. Notre mort spirituelle, notre séparation d'avec Dieu prendra fin. La quatrième et la dernière était le cadre de notre naissance physique et de notre renaissance spirituelle ultérieure dans le royaume de Dieu. Pour que son œuvre réussisse et que nous soyons exaltés avec lui, Dieu a décrété que les hommes et les femmes doivent se marier et donner naissance à des enfants, créant ainsi en partenariat avec lui les corps physiques qui sont essentiels à l'épreuve de la condition mortelle et à la gloire éternelle avec lui. Il a aussi décrété que les parents doivent fonder une famille et élever leurs enfants dans la lumière et la vérité, les amenant à avoir l'espérance en Christ. Le Père nous commande, « Enseignez libéralement ces choses à vos enfants, disant que, étant donné que vous êtes nés dans le monde par l'eau, le sang et l'esprit que j'ai fait, et qu'ainsi de la poussière est sortie une âme vivante, de même vous devez naître de nouveau d'eau et du Saint-Esprit dans le royaume des cieux, et être purifiés par le sang le sang de mon Fils unique. Afin d'être sanctifié de tout péché et de jouir des paroles de la vie éternelle dans ce monde et de la vie éternelle dans le monde à venir, la gloire immortelle. Sachant pourquoi nous avons quitté la présence de notre Père Céleste et ce qui est nécessaire pour retourner auprès de lui et être exalté avec lui, il devient très clair que rien de ce qui est relatif à notre temps sur terre ne peut être plus important que la naissance physique et la renaissance spirituelle, les deux conditions préalables à l'obtention de la vie éternelle. Pour reprendre les paroles de Dietrich Bonhoeffer, c'est le ministère du mariage, le poste de responsabilité à l'égard de l'humanité, que cette institution divine venant d'en haut de Dieu occupe. C'est le maillon dans la chaîne des générations, ici et dans l'au-delà, l'ordre des cieux. Une famille fondée sur le mariage d'un homme et d'une femme offre le meilleur cadre pour la réussite du plan de Dieu, le cadre pour la naissance d'enfants qui viennent de la présence de Dieu, purs et innocents, et pour l'apprentissage et la préparation dont ils auront besoin pour réussir dans la condition mortelle et recevoir la vie éternelle dans le monde à venir. Pour la survie et la prospérité des sociétés, il est essentiel d'avoir une masse critique de familles fondée sur un tel mariage. C'est la raison pour laquelle les collectivités et les nations ont en général encouragé et protégé le mariage et la famille et en ont fait des institutions privilégiées. La question ne s'est jamais limitée à l'amour et au bonheur des adultes. Les arguments des sciences sociales en faveur du mariage et de la famille dirigés par un homme et une femme mariés sont convaincants. Nous faisons également cette mise en garde. La désagrégation de la famille attirera sur les gens, les collectivités et les nations, les calamités prédites par les prophètes d'autrefois et d'aujourd'hui. Mais nos déclarations sur le rôle du mariage et de la famille ne reposent pas sur les sciences sociales, mais plutôt sur la vérité qu'ils sont des créations de Dieu. C'est lui qui, au commencement, créa Adam et Ève à son image, homme et femme, et les joignit comme mari et femme, afin qu'ils deviennent une seule chair et qu'ils multiplient et remplissent la terre. Chaque individu porte en lui l'image divine, mais c'est dans l'union matrimoniale de l'homme et de la femme que nous parvenons peut-être à la signification la plus complète de notre création à l'image de Dieu, homme et femme. Ni nous, ni aucun autre mortel ne peut modifier cet ordre divin du mariage. Ce n'est pas une invention humaine. Ce mariage vient véritablement d'en haut, de Dieu. Il est une partie intégrante du plan du bonheur, au même titre que la chute et l'expiation. Dans le monde prémortel, Satan se rebella contre Dieu et son plan, et son opposition ne fait que s'intensifier. Il se bat pour dissuader les gens de se marier et de fonder une famille. Et lorsqu'un mariage est contracté et qu'une famille est créée, il fait ce qu'il peut pour les perturber. Il attaque tout ce qui est sacré concernant la sexualité humaine, la séparant violemment du cadre du mariage grâce à un étalage de pensées et d'actions immorales qui semble infini. Il cherche à convaincre les hommes et les femmes qu'on peut ignorer ou abandonner le mariage et les priorités familiales, ou du moins les faire passer après la carrière professionnelle, les autres accomplissements et la quête de l'accomplissement de soi et de la liberté individuelle. De toute évidence, l'adversaire est satisfait quand les parents négligent d'enseigner à leurs enfants à avoir foi au Christ, à se convertir et à naître de nouveau. Frères et sœurs, il y a beaucoup de choses qui sont bonnes, beaucoup qui sont importantes, mais il n'y en a que peu qui sont essentielles. Déclarer des vérités fondamentales relatives au mariage et à la famille n'est pas oublier ou amoindrir les sacrifices ou les succès des personnes pour qui cet idéal n'est pas une réalité pour le moment. Certains d'entre vous n'ont pas la bénédiction de se marier en raison d'un manque de possibilités acceptables, d'une attirance pour les personnes du même sexe, de handicaps physiques ou mentaux, ou simplement de la peur de l'échec qui, pour le moment du moins, assombrit la foi. Ou peut-être avez-vous été marié, mais vous avez divorcé, et vous vous retrouvez seul à gérer ce que deux personnes peuvent à peine supporter ensemble. Certains d'entre vous qui êtes mariés ne peuvent pas avoir d'enfants malgré un désir irrésistible et des prières ferventes. Néanmoins, tout le monde a des dons, tout le monde a des talents, et tout le monde peut contribuer au déploiement du plan divin dans chaque génération. On peut accomplir beaucoup de bien, beaucoup de choses essentielles, et parfois tout ce qui est nécessaire pour maintenant, dans des situations qui ne sont pas idéales. Tant d'entre vous font du mieux qu'ils peuvent. Et lorsque vous, qui portez les fardeaux les plus lourds de la condition mortelle, prenez la défense du plan de Dieu pour l'exaltation de ses enfants, nous sommes tous prêts à vous suivre. Nous témoignons avec confiance que l'expiation de Jésus-Christ a anticipé toutes les privations et toutes les pertes des personnes qui se tournent vers lui et les compensera à la fin. Aucun n'est prédestiné à recevoir moins que tout ce que le Père a pour ses enfants. Une jeune mère m'a récemment confié sa peur de ne pas être à la hauteur de cet appel des plus importants. J'ai senti que les problèmes qui l'inquiétaient étaient petits et qu'elle n'avait pas besoin de se faire du souci. Elle s'en sortait très bien. Mais je savais que son seul désir était de plaire à Dieu et d'honorer sa confiance. Je lui ai adressé des paroles de réconfort, et dans mon cœur j'ai prié Dieu, son Père Céleste, de la fortifier par son amour et de lui témoigner son approbation quand elle accomplissait son œuvre. C'est là ma prière pour nous tous aujourd'hui. Puissions-nous tous recevoir l'approbation du Seigneur. Puisse le mariage et la famille prospérer. Et que notre lot soit ou non de recevoir une plénitude de ses bénédictions dans la condition mortelle, puisse la grâce du Seigneur apporter le bonheur maintenant et la foi dans les promesses certaines à venir. Au nom de Jésus-Christ. Amen.
Le chœur et l'assemblée vont maintenant se lever et chanter. Seigneur, merci pour le prophète. Après le chant, nous entendrons Wilford Anderson, Dale Renlund et Michael Ringwood des 70.
This is the 185th annual General Conference of the Church.
Vous assistez à la 185e conférence générale d'avril de l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours.
Thank you. brothers and sisters, thank you for that beautiful music.
Frères et sœurs, merci pour cette belle musique. Il y a des années, j'écoutais à la radio l'interview d'un jeune médecin qui travaillait dans un hôpital de la réserve des Indiens Navajo en Arizona, aux États-Unis. Un soir, quand un vieil Amérindien aux longs cheveux tressés était entré dans la salle des urgences, le jeune médecin avait pris son calepin et avait demandé « Que puis-je faire pour vous ?» Le vieil homme avait regardé droit devant et n'avait rien dit. Le médecin, légèrement agacé, avait réessayé. « Je ne peux rien faire pour vous si vous ne me parlez pas. Dites-moi pourquoi vous êtes venu à l'hôpital. » Le vieil homme l'avait regardé et avait dit « Vous savez danser ?» Alors que le jeune médecin méditait sur l'étrange question, l'idée lui était venue que ce patient était peut-être un guérisseur qui s'efforçait de soigner les malades par le chant et la danse, et non par la prescription de médicaments. « Non, avait dit le médecin, je ne sais pas danser. Et vous, vous savez ?» Le vieil homme avait acquiescé de la tête. Alors le médecin lui avait demandé, « Pourriez-vous m'apprendre à danser ?» La réponse du vieil homme me fait beaucoup réfléchir depuis de nombreuses années. Il avait dit, « Je peux vous apprendre à danser, mais il faut que vous entendiez la musique. » Parfois, dans nos foyers, nous réussissons à enseigner les pas de danse, mais nous ne parvenons pas à aider les membres de notre famille à entendre la musique. Et comme le vieux guérisseur le savait bien, il est difficile de danser sans musique. Danser sans musique, c'est maladroit, décevant, gênant même. Avez-vous déjà essayé ? Dans la section 8 des Doctrines et Alliances, le Seigneur enseigne à Joseph Smith et à Oliver Cadori, « Oui, voici, je te le dirai dans ton esprit et dans ton cœur, par le Saint-Esprit qui viendra sur toi et qui demeurera dans ton cœur. » Nous apprenons les pas de danse avec notre intellect, mais nous entendons la musique avec notre cœur. Les pas de danse de l'Évangile sont les choses que nous faisons. La musique de l'Évangile est le sentiment spirituel joyeux qui vient du Saint-Esprit. Il apporte un changement de cœur et est la source de tous les désirs justes. Les pas de danse exigent de la discipline, mais nous ne pouvons goûter la joie durable de la danse que lorsque nous parvenons à entendre la musique. Certains se moquent des membres de l'Église pour ce que nous faisons. C'est compréhensible. Les personnes qui dansent semblent souvent étranges ou maladroites aux yeux de celles qui n'entendent pas la musique. Vous êtes-vous déjà arrêté à un feu rouge à côté d'une voiture dont le chauffeur danse et chante à tue-tête? Mais vous n'entendez rien parce que votre vitre est fermée. Étrange, en effet. Si nos enfants apprennent les pas de danse sans apprendre à entendre et à ressentir la belle musique de l'Évangile, au fil du temps, ils trouveront la danse gênante et soit arrêteront de danser, soit, ce qui est presque aussi mauvais, continueront de danser uniquement du fait de la pression qu'exercent les personnes qui dansent autour d'eux. La difficulté pour tous ceux d'entre nous qui cherchent à enseigner l'Évangile est d'étendre le programme d'études au-delà des pas de danse. Le bonheur de nos enfants dépend de leur capacité d'entendre et d'aimer la belle musique de l'Évangile. Comment faire? D'abord, nous devons maintenir notre vie réglée sur la bonne fréquence spirituelle. Autrefois, avant l'ère du numérique, nous trouvions notre station de radio préférée en tournant délicatement le bouton jusqu'à ce que l'alignement sur la fréquence de notre station soit parfait. En approchant du chiffre, nous n'entendions que des parasites. Mais quand l'alignement était enfin parfait, nous entendions clairement notre musique préférée. Dans la vie, nous devons nous aligner sur la bonne fréquence afin d'entendre la musique de l'Esprit. Lorsque nous recevons le don du Saint-Esprit après le baptême, nous sommes remplis de la musique céleste qui accompagne la conversion. Notre cœur est changé et nous n'avons plus de disposition à faire le mal, mais à faire continuellement le bien. Mais l'Esprit ne supporte pas la méchanceté, l'orgueil ou l'envie. Si nous perdons cette influence délicate, les riches accords de l'Évangile peuvent devenir vite dissonants et peuvent finir par être réduits au silence. Alma pose cette question poignante. Si vous avez ressenti le désir de chanter le cantique de l'amour rédempteur, je vous le demande, pouvez-vous le ressentir maintenant? Parents, si notre vie détonne avec la musique de l'Évangile, nous devons l'accorder. Comme le président Monson nous l'a enseigné en octobre dernier, nous devons considérer le chemin par où nous passons. Nous savons comment faire. Nous devons suivre le même chemin que celui que nous avons emprunté la première fois que nous avons entendu les accords célestes de la musique de l'Évangile. Nous exerçons la foi au Christ, nous nous repentons, nous prenons la Sainte Cène, nous ressentons plus fortement l'influence du Saint-Esprit. Et la musique de l'Évangile recommence à se faire entendre dans notre vie. Deuxièmement, quand nous-mêmes nous entendons la musique, nous faisons de notre mieux pour la jouer dans notre foyer. Ce n'est pas quelque chose que l'on peut imposer. Aucun pouvoir, aucune influence ne peuvent ou ne devraient être exercés en vertu de la prêtrise ou en vertu du fait que je suis le père ou la mère ou le plus grand ou celui qui parle le plus fort, autrement que par la persuasion, par la longanimité, par la gentillesse et la douceur, par l'amour sincère et par la bonté. Pourquoi ces attributs produiraient-ils un pouvoir et une influence plus grands dans notre foyer? Parce que ce sont les attributs qui favorisent la présence de l'Esprit, du Saint-Esprit. Ce sont les attributs qui accordent notre cœur à la musique de l'Évangile. Lorsqu'ils sont présents, les pas de danse sont exécutés plus naturellement et plus joyeusement par tous les danseurs de la famille, sans qu'il y ait besoin de menaces ou de contraintes. Lorsque nos enfants sont petits, nous pouvons leur chanter la berceuse de l'amour sincère. Et quand ils sont têtus et refusent d'aller se coucher le soir, nous aurons peut-être besoin de chanter la berceuse de la longanimité. Quand ils sont adolescents, nous pouvons nous déconnecter de la cacophonie des disputes et des menaces et au contraire jouer la belle musique de la persuasion et peut-être chanter le deuxième couplet de la berceuse de la longanimité. Les parents peuvent jouer en parfaite harmonie les attributs jumeaux que sont la gentillesse et la douceur. Nous pouvons inviter nos enfants à chanter en chœur avec nous, tandis que nous faisons preuve de gentillesse à l'égard d'un voisin qui est dans le besoin. Cela ne va pas arriver tout d'un coup. Comme tous les musiciens accomplis le savent, il faut un entraînement diligent pour jouer de la belle musique. Si les premiers efforts pour faire de la musique semblent dissonants, rappelez-vous que la dissonance ne se corrige pas par la critique. La dissonance dans un foyer est comme l'obscurité dans une pièce. Il ne sert pas à grand-chose de la réprimander. On ne peut la remplacer que par l'introduction de la lumière. Alors, si les basses de votre foyer sont trop fortes, ou si les cordes sont un peu trop stridentes, ou si ces impétueux piccolos ne sont pas en harmonie, ou sont incontrôlables, soyez patient. Si vous n'entendez pas la musique de l'Évangile dans votre foyer, souvenez-vous de ces quatre mots. Continuez de vous entraîner. Avec l'aide de Dieu, le jour viendra où la musique de l'Évangile emplira votre foyer d'une joie ineffable. Même si elle est bien jouée, la musique ne résoudra pas tous nos problèmes. Il y aura toujours des crescendo et des décrescendo dans notre vie, des staccato et des legato. Telle est la nature de la vie sur la planète Terre. Mais si nous ajoutons de la musique au pas de danse, les rythmes parfois compliqués du mariage et de la vie de famille ont tendance à se diriger vers un équilibre harmonieux. Même nos problèmes peuvent ajouter une tonalité mélancolique riche et des motifs émouvants. La doctrine de la prêtrise commencera à se distiller sur notre âme comme la rosée des cieux. Le Saint-Esprit sera notre compagnon constant et notre sceptre, une allusion claire au pouvoir et à l'influence, sera un sceptre immuable de justice et de vérité. Et notre domination sera une domination éternelle. Et sans moyen de contrainte, elle affluera vers nous pour toujours et à jamais. Puisse-t-il en être ainsi dans la vie de chacun de nous et dans chacun de nos foyers. C'est là ma prière. Au nom de Jésus-Christ. Amen.
My dear brothers and sisters,
mes chers frères et sœurs, en décembre 2013, le monde pleurait la mort de Nelson Mandela. Après 27 années d'emprisonnement pour son rôle dans la lutte contre l'apartheid, Nelson Mandela a été le premier président démocratiquement élu d'Afrique du Sud. Son pardon envers les personnes qui l'ont emprisonné a été remarquable. Il a été universellement salué et acclamé. Il refusait souvent les éloges et disait « Je ne suis pas un saint, sauf si vous considérez qu'un saint est un pécheur qui continue d'essayer. » Cette déclaration « Un saint est un pécheur qui continue d'essayer » devrait rassurer et encourager les membres de l'Église. Bien qu'on nous appelle « saints des derniers jours », ce nom nous met parfois mal à l'aise. Le terme « saint » est communément utilisé pour désigner les personnes qui ont atteint un état élevé de sainteté, voire la perfection. Or, nous savons parfaitement que nous ne sommes pas parfaits. Pourtant, notre théologie nous enseigne que nous pouvons être rendus parfaits en nous reposant entièrement et de manière répétée sur la doctrine du Christ, en faisant preuve de foi en lui, en nous repentant, en prenant la Sainte Cène pour renouveler les alliances et les bénédictions du baptême, et en ayant la compagnie constante du Saint-Esprit. Si nous le faisons, nous devenons plus semblables au Christ et nous persévérons jusqu'à la fin. En des termes moins formels, Dieu se soucie beaucoup plus de la personne que nous sommes et de la personne que nous allons devenir que de la personne que nous avons été. Il veut que nous continuions d'essayer. La comédie « Comme il vous plaira » écrite par le dramaturge anglais William Shakespeare décrit un changement spectaculaire dans la vie d'un des personnages. Un frère aîné tente de faire assassiner son frère cadet. Bien qu'ayant connaissance de cela, le plus jeune frère sauve son frère aîné malfaisant d'une mort certaine. Quand le frère aîné apprend cette preuve de compassion imméritée, il change totalement et pour toujours, et connaît ce que l'auteur appelle une conversion. Plus tard, plusieurs femmes abordent le frère aîné et lui demandent « Est-ce bien vous qui aviez tant de fois comploté de faire périr votre frère ?» Le frère aîné répond « C'était moi, mais ce n'est plus moi. Je ne rougis point de vous avouer ce que je fus, depuis qu'il me fait trouver tant de douceur à être ce que je suis à présent. » Pour nous, grâce à la miséricorde de Dieu et à l'expiation de Jésus-Christ, un tel changement n'est pas une simple fiction littéraire. Le Seigneur a déclaré par l'intermédiaire d'Ézéchiel, « Et le méchant ne tombera pas par sa méchanceté le jour où il s'en détournera, s'il revient de son péché et pratique la droiture et la justice, s'il rend le gage, s'il restitue ce qu'il a ravi, s'il suit les préceptes qui donnent la vie, sans commettre l'iniquité, il vivra. Tous les péchés qu'il a commis seront oubliés. Il pratique la droiture et la justice. » Dans sa miséricorde, Dieu a promis le pardon si nous nous repentons et nous détournons de l'iniquité, au point que nos péchés seront oubliés. Pour nous, grâce à l'expiation du Christ et à notre repentir, nous pouvons regarder notre passé et dire « C'était moi, mais ce n'est plus moi. » Aussi méchants que nous avons été, nous pouvons dire « C'était la personne que j'étais, mais je ne suis plus cette méchante personne. » Thomas S. Monson a enseigné, l'un des plus grands dons que Dieu nous fait est la joie d'essayer encore, car aucun échec ne doit jamais être définitif. Même si nous avons fait le choix délibéré de pécher ou avons connu de nombreux échecs et déceptions, au moment où nous décidons d'essayer encore, l'expiation du Christ peut nous aider. Et nous devons nous souvenir que ce n'est pas le Saint-Esprit qui nous dit que nous sommes tombés si bas qu'il vaut mieux abandonner. Le désir que Dieu a que les saints des derniers jours continuent d'essayer va au-delà de la victoire sur le péché. Que nos souffrances soient causées par des relations troublées, des difficultés financières, ou la maladie, ou par les péchés d'autres personnes, l'expiation infinie du Sauveur peut même, et peut-être tout particulièrement, guérir les personnes innocentes qui ont souffert. Il comprend parfaitement ce que c'est de souffrir innocemment des conséquences de la transgression d'autrui. Selon la prophétie, le Sauveur viendra guérir ceux qui ont le cœur brisé, donner un diadème au lieu de la cendre, une huile de joie au lieu du deuil et un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu. Quelle que soit la situation, avec son aide, Dieu veut que les saints des derniers jours continuent d'essayer. Tout comme Dieu se réjouit lorsque nous persévérons, de même, il est déçu lorsque nous ne reconnaissons pas que les autres essayent aussi. Notre cher ami Toba a raconté comment sa mère Julia lui a enseigné cette leçon. Julia et Toba étaient parmi les premiers convertis noirs d'Afrique du Sud. Après la fin de l'apartheid, les membres blancs et noirs de l'Église ont été autorisés à aller ensemble à l'Église. Pour beaucoup, l'interaction entre les races était quelque chose de nouveau et difficile. Un jour, en allant à l'Église, Julia et Toba ont ressenti qu'elles n'étaient pas traitées avec gentillesse par certains membres blancs. En partant, Toba s'est plainte à sa mère. Julia l'a écoutée calmement, jusqu'à ce que Toba ait fini d'exprimer toute sa frustration. « Oh Toba, l'Église est comme un grand hôpital, et nous sommes tous malades à notre façon. Nous venons à l'Église pour recevoir de l'aide. » Le commentaire de Julia traduit un enseignement précieux. Nous ne devons pas simplement être tolérants tandis que les autres travaillent sur leur maladie personnelle. Nous devons aussi faire preuve de gentillesse, de patience, les soutenir et être compréhensifs. Tout comme il nous encourage à continuer d'essayer, de même, Dieu attend de nous que nous accordions aux autres la possibilité de faire de même, à leur propre rythme. L'expiation opérera dans notre vie dans une mesure encore plus grande. Nous saurons alors qu'en dépit des différences, nous avons tous besoin de la même expiation infinie. Il y a quelques années, un jeune homme formidable du nom de Curtis a été appelé à faire une mission. Il était le type de missionnaire que chaque président de mission demande dans ses prières. Il était concentré et travaillait dur. À un moment, on lui a donné pour compagnon un missionnaire qui était immature, maladroit socialement, et pas particulièrement enthousiasmé par l'œuvre missionnaire. Un jour, qu'ils étaient à vélo, Curtis a regardé en arrière et a vu que son compagnon était descendu de son vélo sans raison apparente et marchait. En silence, Curtis a exprimé sa frustration à Dieu. Quelle corvée c'était d'avoir un compagnon qu'il devait traîner pour accomplir quoi que ce soit. Quelques instants plus tard, Curtis a reçu une profonde inspiration, comme si Dieu lui disait « Tu sais, Curtis, comparé à moi, tous les deux, vous n'êtes pas si différents. » Curtis a appris qu'il devait faire preuve de patience envers un compagnon imparfait qui faisait malgré tout des efforts à sa façon. Mon invitation à nous tous est que nous évaluions notre vie, nous repentions et continuions d'essayer. Si nous n'essayons pas, nous ne sommes que des pécheurs des derniers jours. Si nous ne persévérons pas, nous sommes des lâcheurs des derniers jours. Et si nous ne permettons pas aux autres d'essayer, nous sommes des hypocrites des derniers jours. Si nous essayons, persévérons et aidons les autres à faire de même, nous sommes de véritables saints des derniers jours. En changeant, nous découvrirons qu'en effet, Dieu se soucie bien plus de la personne que nous sommes et de la personne que nous allons devenir que de la personne que nous avons été. Je suis profondément reconnaissant au Sauveur de son expiation infinie et pour les prophètes modernes qui nous encouragent à être des saints des derniers jours qui continuent d'essayer. Je témoigne de l'existence du Sauveur au nom de Jésus-Christ. Amen.
Unfortunately,
il y a eu hélas une époque de ma vie où j'étais motivé par les titres et l'autorité. En fait, cela a débuté de manière innocente. Alors que je me préparais à faire une mission, mon grand frère a été nommé dirigeant de zone. J'avais entendu tant de choses positives à son sujet que je ne pouvais pas m'empêcher de vouloir qu'on dise les mêmes à mon sujet. J'espérais avoir le même poste et j'ai sans doute prié pour cela. Heureusement, au cours de ma mission, j'ai appris une grande leçon. Elle m'a été rappelée lors de la dernière conférence. En octobre, Dieter Hurdorf a dit « Au cours de ma vie, j'ai eu l'occasion de côtoyer certains des hommes et des femmes les plus compétents et les plus intelligents de ce monde. Quand j'étais plus jeune, j'étais impressionné par les personnes cultivées, accomplies, reconnues et acclamées par le monde. Mais les années passant, je me suis finalement rendu compte que je suis beaucoup plus impressionné par les âmes merveilleuses et bénies qui sont vraiment bonnes et dénuées de tromperies. Mon héros du livre de Mormon, Chiblon, est un parfait exemple d'âme merveilleuse et bénie qui était vraiment bonne et dénuée de tromperies. C'était l'un des fils d'Alma le Jeune. On connaît mieux ses frères et l'amant, qui allait suivre les traces de son père en tant que gardien des annales et prophète de Dieu, et Corianton, qui est connu comme un missionnaire qui avait besoin des conseils de son père. À Élaman, Alma a écrit 77 versets. À Corianton, Alma a consacré 91 versets. À Chiblon, son deuxième fils, Alma a écrit environ 15 versets. Pourtant, ces paroles, rapportées dans ces 15 versets, sont puissantes et instructives. Et maintenant, mon fils, j'ai l'assurance que tu seras pour moi une grande joie à cause de ta stabilité et de ta fidélité à Dieu. Car de même que tu as commencé dans ta jeunesse à regarder vers le Seigneur, ton Dieu, de même, j'espère que tu continueras à garder ses commandements. Car béni est celui qui persévère jusqu'à la fin. Je te dis, mon fils, que tu as déjà été une grande joie pour moi à cause de ta fidélité et de ta diligence et de ta patience et de ta longanimité parmi le peuple. En plus de parler à Chiblon, Alma a également parlé de lui à Corianton. Il a dit, n'as-tu pas observé la stabilité de ton frère, sa fidélité, sa diligence à garder les commandements de Dieu? Voici, ne t'a-t-il pas donné le bon exemple? Il semble que Chiblon ait été un fils qui voulait plaire à son père et faisait ce qui était juste pour les bonnes raisons, plutôt que pour les louanges, l'obtention d'un poste, du pouvoir, des éloges ou de l'autorité. Et l'amant devait savoir et respecter cela chez son frère, puisqu'il lui a confié les annales sacrées qu'il avait reçues de son père. Il est clair qu'Élaman lui faisait confiance, parce que c'était un homme juste, qui marchait en droiture devant Dieu, et s'appliquait à faire continuellement le bien, à respecter les commandements du Seigneur. Ce qui semble vraiment caractéristique de Chiblon, il y a peu de choses écrites à son sujet du temps où il a reçu les annales sacrées, jusqu'au moment où il les a transmises à Élaman, fils d'Élaman. Chiblon était vraiment bon et dénué de tromperie. Il a fait don de son temps, de ses talents et de ses efforts pour aider et édifier les autres par amour pour Dieu et pour ses semblables. Il est parfaitement décrit par les paroles de Spencer Kimball. Les femmes et les hommes nobles sont toujours plus soucieux de servir que de dominer. Dans un monde où les louanges, les postes en vue, le pouvoir, les éloges et l'autorité sont recherchés de toutes parts, je rends hommage à ces âmes vraiment bonnes et dénuées de tromperies, motivées par l'amour de Dieu et de leurs prochains. Ces femmes et ces hommes nobles, toujours plus soucieux de servir que de dominer. De nos jours, certains voudraient nous faire croire que notre recherche de notre place ne peut qu'être satisfaite par un poste en vue et du pouvoir. Mais heureusement, beaucoup ne sont pas influencés par cette perspective. Ils trouvent leur place par leurs efforts pour être vraiment bons et dénués de tromperies. Je les ai rencontrés dans toutes les professions et milieux et dans beaucoup de traditions religieuses, et je les vois en grand nombre parmi les disciples véritablement convertis du Christ. Je rends hommage aux personnes qui servent chaque semaine de manière désintéressée, dans les paroisses et les branches du monde entier, faisant des pieds et des mains pour remplir leur appel. Mais les appels vont et viennent. Ce qui m'impressionne encore plus, ce sont les personnes qui, sans appel officiel, trouvent des moyens de servir constamment et d'édifier les autres. Un frère vient le matin pour mettre les chaises en place et reste après les réunions pour ranger l'église. Une sœur choisit de s'asseoir à côté d'une sœur aveugle, non seulement pour la saluer, mais également pour chanter les cantiques assez fort, pour qu'elle entende les paroles et chante en même temps. Si vous prêtez attention, vous verrez de tels exemples. Il y a toujours des membres qui semblent savoir qui a besoin d'aide et quand l'offrir. J'ai sans doute appris ma première leçon sur les saints vraiment bons et dénués de tromperies. Quand j'étais jeune missionnaire, j'avais été muté dans un nouveau secteur avec un collègue que je ne connaissais pas. J'avais entendu les autres missionnaires dire qu'ils n'avaient jamais reçu d'appel de dirigeant et qu'il avait des difficultés avec le coréen, malgré sa présence dans le pays depuis longtemps. Mais en apprenant à le connaître, j'ai découvert qu'il était l'un des missionnaires les plus fidèles et obéissants que j'ai connus. Il étudiait quand c'était le moment d'étudier. Il travaillait quand c'était le moment de travailler. Il quittait l'appartement à l'heure et revenait à l'heure. Il étudiait le coréen avec diligence, bien que la langue soit particulièrement difficile pour lui. Quand j'ai compris que les commentaires que j'avais entendus à son sujet n'étaient pas vrais, j'ai ressenti que ce missionnaire était jugé à tort comme n'ayant pas du succès. Je voulais dire à toute la mission ce que j'avais découvert sur lui. J'ai fait part à mon président de mission de mon désir de corriger ce malentendu. Sa réponse a été « Notre Père sait que ce jeune homme est un bon missionnaire, et je le sais aussi. » Puis il a ajouté « Et maintenant, vous le savez aussi. Alors, qui d'autre a besoin de le savoir ?» Ce président de mission, plein de sagesse, m'a enseigné ce qui importe le plus dans le service. Et ce ne sont pas les louanges, les postes en vue, le pouvoir, les éloges ou l'autorité. C'était une grande leçon pour un jeune missionnaire qui était trop centré sur les titres. Avec cette leçon à l'esprit, j'ai commencé à faire une rétrospective de ma vie et à voir combien de fois j'avais été influencé par des hommes et des femmes qui, à l'époque, ne possédaient aucun grand titre ni aucun grand poste. L'une de ces âmes, semblable à Chiblon, était l'instructeur du séminaire. Cet homme bon n'a enseigné le séminaire que 2 ou 3 ans, mais il a ouvert mon cœur d'une manière qui m'a aidé à acquérir un témoignage. Il n'était pas l'instructeur le plus populaire de l'école, mais il était toujours préparé, et son influence sur moi était forte et durable. L'une des rares fois où j'ai vu cet homme au cours des 40 années qui ont suivi a été quand il est venu me voir aux obsèques de mon père. Vraiment, ce n'était pas un acte motivé par la recherche d'un titre ou du pouvoir. Je rends hommage à cet instructeur dévoué et à beaucoup d'autres comme lui, qui sont véritablement bons et dénués de tromperies. Je rends hommage à l'instructeur de l'école du dimanche qui ne se contente pas d'instruire ses élèves le dimanche, mais les instruit et les influence en les invitant à se joindre à sa famille pour le petit déjeuner. Je rends hommage aux dirigeants des jeunes qui assistent aux activités sportives et culturelles des jeunes gens et des jeunes filles. Je rends hommage aux hommes qui écrivent des notes d'encouragement à leurs voisins et à la femme qui ne se contente pas d'envoyer des cartes de Noël, mais les donne en ma propre aux membres de sa famille et à ses amis qui ont besoin qu'on leur rende visite. Je rends hommage au frère qui emmène en promenade son voisin atteint de la maladie d'Alzheimer, donnant ainsi à lui et à sa femme un changement d'air plus que nécessaire. Ces choses ne sont pas faites pour les louanges et les éloges. Ces hommes et ces femmes ne sont pas motivés par la possibilité de recevoir des titres ou de l'autorité. Ils sont disciples du Christ, vont de lieu en lieu faisant du bien. Et tout comme Chiblon, essaie de près plaire à leur Père Céleste. Je suis attristé d'entendre que des personnes arrêtent de servir ou de venir à l'Église lorsqu'elles sont relevées d'un appel ou ne sont pas retenues pour un poste ou un titre. J'espère qu'un jour, elles apprendront la même leçon que j'ai apprise quand j'étais jeune missionnaire, que le service qui compte le plus est en général seulement reconnu par Dieu. Dans notre quête de notre intérêt personnel, Avons-nous oublié l'intérêt de notre Père céleste? Certains pourront dire, mais j'ai tellement de chemin à parcourir pour devenir comme les personnes que vous avez décrites. La bonne nouvelle de l'évangile de Jésus-Christ est que le désir de notre cœur peut être transformé et que nos motivations peuvent être éduquées et raffinées. Lorsque nous nous faisons baptiser dans la véritable bergerie de Dieu, nous entamons le processus qui fera de nous de nouvelles créatures. Chaque fois que nous renouvelons la nuance du baptême en prenant la Sainte Seine, nous faisons un pas de plus vers cet objectif final. En persévérant dans cette alliance, nous acquérons la force de pleurer avec ceux qui pleurent et de consoler ceux qui ont besoin de consolation. Nous trouvons dans cette alliance la grâce qui nous permet de servir Dieu et de respecter ses commandements, qui inclut d'aimer Dieu de tout notre cœur et d'aimer notre prochain comme nous-mêmes. Dans cette alliance, Dieu et le Christ viennent à notre secours pour que nous puissions secourir les personnes qui en ont besoin. Tout ce que je veux dans la vie, c'est plaire à mes pères, mon Père terrestre et mon Père céleste, et devenir plus semblable à Chiblon. Je remercie mon Père céleste pour les âmes semblables à Chiblon, dont l'exemple nous offre à moi et à nous tous de l'espérance. Dans leur vie, nous voyons un témoignage de l'amour de notre Père céleste et d'un Sauveur aimant et compatissant. J'ajoute mon témoignage au leur, avec l'engagement de m'efforcer d'être plus semblable à eux. Au nom de Jésus-Christ, amen.
Nous sommes reconnaissants à toutes les personnes qui se sont adressées à nous cet après-midi et de la belle musique qui a été interprétée. Nous rappelons aux frères que la réunion générale de la prêtrise commencera au centre de conférence ce soir à 18h, heure d'été de Salt Lake City. La diffusion nationale de l'émission du Cœur du Tabernacle Mormon aura lieu demain matin de 9h30 à 10h, heure d'été de Salt Lake City. La session du dimanche matin de la conférence suivra immédiatement. Le dernier orateur de cette session sera Quentin Cook du Collège des Douze Apôtres. Après son discours, le chœur terminera cette réunion en chantant « Mettons de l'ardeur ». Ensuite, Randy Funk des 70 fera la prière de clôture.
En cette période de Pâques, nous pensons à la rédemption offerte par notre Sauveur, Jésus-Christ, et nous nous en réjouissons. La clameur qui résonne sur toute la terre à cause de la méchanceté du monde crée un sentiment de vulnérabilité. Avec la communication moderne, l'impact de l'iniquité, des inégalités et de l'injustice donne à beaucoup le sentiment que la vie est fondamentalement injuste. Aussi importantes qu'elles puissent être, ces épreuves ne doivent pas nous empêcher de célébrer l'intercession divine du Christ en notre faveur et de nous en réjouir. Le Sauveur a littéralement acquis la victoire sur la mort. Avec miséricorde et compassion, il a pris sur lui notre iniquité, nos transgressions, nous rachetant ainsi et satisfaisant aux exigences de la justice pour tous les gens qui se repentiraient et croiraient en son nom. Son magnifique sacrifice expiatoire est d'une importance suprême qui dépasse la compréhension de l'homme mortel. Cet acte de grâce offre la paix qui surpasse l'intelligence. Comment alors faisons-nous face aux dures réalités qui nous entourent? Marie, ma femme, a toujours aimé les tournesols. Elle se réjouit lorsqu'ils poussent le long de la route à des endroits inattendus. Un chemin de terre conduit à la maison où mes grands-parents vivaient. Lorsqu'on prenait ce chemin, Marie s'exclamait souvent. Penses-tu que nous allons voir ces superbes tournesols aujourd'hui? Nous étions surpris que des tournesols poussent dans une terre endommagée par des équipements agricoles et de déneigement et par l'accumulation de substances qui n'en faisaient certainement pas une terre idéale pour des fleurs sauvages. Outre qu'il pousse dans une terre inhospitalière, une des caractéristiques remarquables des jeunes tournesols sauvages est la manière dont le jeune bouton de la fleur suit le soleil dans sa course dans le ciel. Ce faisant, il reçoit l'énergie essentielle à sa vie avant que n'éclate sa fleur d'un jaune magnifique. Comme le jeune tournesol, lorsque nous suivons le Sauveur du monde, le Fils de Dieu, nous prospérons et devenons glorieux en dépit des nombreuses situations terribles qui nous entourent. Il est véritablement notre vie et notre lumière. Dans la parabole du bon grain et de l'ivraie, le Sauveur déclare à ses disciples que les scandales et les gens qui commettent l'iniquité seront arrachés de son royaume. Mais en parlant des fidèles, il dit « Alors les justes resplendiront comme le soleil dans le royaume de leur Père. En notre qualité de disciples du Christ vivant, dans un monde hostile qui est littéralement en tumulte, nous pouvons prospérer, nous épanouir si nous sommes enracinés dans notre amour du Sauveur et suivons humblement ses enseignements. » Notre capacité de rester ferme et fidèle et de suivre le Sauveur en dépit des vicissitudes de la vie est grandement fortifiée par les familles justes et l'unité centrée sur le Christ dans nos paroisses et dans nos branches. Le rôle de la famille dans le plan de Dieu est de nous apporter le bonheur, de nous aider à apprendre des principes corrects dans une ambiance d'amour et de nous préparer à la vie éternelle. Les belles traditions de l'observance des principes religieux au foyer doivent être ancrées dans le cœur de nos enfants. Mon oncle, Van Robert Kimball, c'était un bon étudiant, un écrivain en herbe, et a joué comme quarterback pour l'équipe de football de BYU. Le 8 décembre 1941, le lendemain de l'attaque de Pearl Harbor, il s'est engagé dans la marine des États-Unis. Alors qu'il était en mission de recrutement à Albany, dans l'État de New York, il a écrit un petit article pour le Reader's Digest. Le magazine lui a versé $200 et a publié son article intitulé « L'heure qu'il est à la maison » dans le numéro de mai 1944. Sa contribution au Reader's Digest, dans lequel il joue le personnage du marin, dit entre autres « Un soir, à Albany, dans l'État de New York, j'ai demandé à un marin de me donner l'heure. Il a ressorti une énorme montre et m'a répondu. Il est 19h20. Je savais qu'il était plus tard que ça. Est-ce que votre montre ne s'est pas arrêtée ? Lui ai-je demandé. Il m'a répondu non, je suis encore à l'heure des montagnes rocheuses. Je viens du sud de l'Utah. Lorsque je me suis engagé dans la marine, mon père m'a donné cette montre. Il m'a dit qu'elle m'aiderait à me souvenir de chez moi. Lorsque ma montre indique 5h, je sais que mon père part traire les vaches. Et tous les soirs, lorsqu'elle indique 19h30, je sais que toute la famille est à table devant un bon repas et que mon père en remercie Dieu et lui demande de veiller sur moi. Je peux facilement trouver l'heure qu'il est là où je me trouve. Ce que je veux savoir, c'est l'heure qu'il est en Utah. Peu de temps après avoir écrit l'article, il a été affecté à un navire sur le théâtre du Pacifique. Le 11 mai 1945, alors qu'il servait à bord du porte-avions USS Bunker Hill, près d'Okinawa, le navire a été bombardé par deux kamikazes. Près de 400 membres d'équipage, parmi lesquels mon oncle Van, sont morts. Spencer Kimball a exprimé ses condoléances au père de Van, mentionnant la dignité de celui-ci et l'assurance du Seigneur que ceux qui meurent en moi ne goûteront pas la mort, car elle leur sera douce. Le père de Van a dit tendrement que bien que Van ait été enseveli dans la mer, Dieu le conduirait par la main dans son foyer céleste. 28 ans plus tard, Spencer Kimball a parlé de Vaughan lors de la conférence générale. Il a dit, entre autres, « Je connaissais bien cette famille. J'ai été agenouillé en prière fervente avec elle. La formation donnée au foyer a été éternellement bénéfique à cette famille nombreuse. » Le président Kimball a demandé à chaque famille de se mettre à genoux pour prier pour leurs fils et leurs filles deux fois par jour. Frères et sœurs, si nous prions en famille, étudions les Écritures, faisons la soirée familiale, recevons des bénédictions de la prêtrise dans notre foyer et respectons le jour du sabbat, nos enfants sauront l'heure qu'il est chez nous. Ils seront préparés pour un foyer éternel dans les cieux, quoi qu'il leur arrive dans un monde difficile. Il est d'une importance vitale que nos enfants sachent qu'ils sont aimés et en sécurité au foyer. Le mari et la femme sont des partenaires égaux. Ils ont des responsabilités différentes, mais complémentaires. La femme peut donner le jour à des enfants, ce qui apporte des bénédictions à toute la famille. Le mari peut recevoir la prêtrise, ce qui apporte des bénédictions à toute la famille. Mais au sein du conseil de famille, le mari et la femme, en leur qualité de partenaires égaux, prennent les décisions les plus importantes. Ils décident de la manière dont ils vont instruire et discipliner les enfants, de la manière dont l'argent va être dépensé, où ils vont vivre, et de bien d'autres choses relatives à la famille. Ils prennent ces décisions conjointement après avoir demandé au Seigneur de les guider. L'objectif est d'avoir une famille éternelle. La lumière du Christ implante la nature éternelle de la famille dans le cœur de tous ses enfants. Un de mes auteurs préférés, qui n'est pas membre de l'Église, l'a dit de cette manière. Il y a tant de choses superflues dans la vie, mais la famille est ce qui est réel, ce qui est la chose concrète, celle qui est éternelle, celle sur laquelle il faut veiller, celle dont il faut prendre soin et à laquelle il faut être loyal. L'Église nous aide à nous concentrer sur le Sauveur en tant que famille unie. Outre la famille, le rôle de l'Église est lui aussi important. L'Église fournit l'organisation et les moyens pour enseigner l'Évangile du Christ à tous les enfants de Dieu. Elle apporte l'autorité de la prêtrise pour accomplir les ordonnances du salut et de l'exaltation pour toutes les personnes qui sont dignes et qui sont disposées à les accepter. Dans le monde, les querelles et l'iniquité sont omniprésentes et l'on accorde beaucoup d'importance aux cultures divergentes et à l'inégalité. Dans l'Église, à l'exception des unités de langues étrangères, la répartition de nos paroisses et de nos branches est strictement géographique. Nous ne faisons pas de division selon des classes ou des rangs. Nous nous réjouissons du mélange de toutes les races et de toutes les cultures dans une assemblée de fidèles. La famille que forme notre paroisse est importante pour notre progression, notre bonheur et nos efforts personnels pour être davantage semblables au Christ. Les cultures divisent souvent les gens et sont parfois une source de violence et de discrimination. Le Livre de Mormon utilise les termes les plus marquants pour décrire les traditions des pères méchants qui conduisent à la violence, à la guerre, à des actes pervers, à l'iniquité et même à la destruction de peuples et de nations. Il n'y a pas de meilleur point de départ dans les Écritures que quatre Néphis pour trouver une description de la culture de l'Église qui est essentielle pour nous tous. Le peuple fut entièrement converti au Seigneur sur toute la surface du pays, tant les Néphites que les Lamanites. Il n'y avait pas de querelle ni de controverse parmi eux, et tous les hommes pratiquaient la justice les uns envers les autres. Et assurément, il ne pouvait y avoir de peuple plus heureux parmi tout le peuple qui avait été créé par la main de Dieu. L'absence de querelle est attribuée à l'amour de Dieu qui demeurait dans le cœur du peuple. C'est la culture à laquelle nous aspirons. Les valeurs et les croyances culturelles profondes sont à la racine de ce que nous sommes. Il faut chérir et préserver les traditions de sacrifice, de reconnaissance, de foi et de justice. La famille doit chérir et protéger les traditions qui édifient la foi. La langue est l'un des aspects les plus importants d'une culture. Dans la région de San Francisco, en Californie, il y avait 7 unités linguistiques. Notre doctrine en matière linguistique est exposée à la section 90 de Doctrine et Alliance, au verset 11. Car il arrivera ce jour-là que chaque homme entendra la plénitude de l'Évangile dans sa propre langue et dans sa propre langage. Lorsque les enfants de Dieu le prient dans leur langue maternelle, c'est la langue de leur cœur. Il est évident que la langue du cœur est précieuse pour chacun. Joseph, mon frère aîné, est médecin et il a exercé pendant de nombreuses années dans la région de la baie de San Francisco. Un membre de l'Église âgée, originaire des Samoa, qui était un nouveau patient, est venu dans son cabinet. Il souffrait
terriblement. On lui a diagnostiqué un calcul rénal et il a commencé un traitement adapté. Ce membre fidèle a déclaré que son objectif, au départ, était simplement de comprendre ce qui n'allait pas, afin de pouvoir prier son Père Céleste en samoan concernant son problème de santé. Il est important que les membres comprennent l'Évangile dans la langue de leur cœur, afin de pouvoir prier et agir conformément à ses principes. Même s'il y a une diversité de langues et de traditions culturelles belles et inspirantes, nos cœurs doivent être enlacés dans l'unité et l'amour. Le Seigneur a déclaré de manière formelle que chacun estime son frère comme lui-même. Soyez un, et si vous n'êtes pas un, vous n'êtes pas de moi. Bien que nous chérissions la diversité des cultures, notre but est d'être unis à tous égards dans la culture, les coutumes et les traditions de l'Évangile de Jésus-Christ. Nous reconnaissons que certains membres ont des questions ou des préoccupations tout en s'attachant à fortifier leur foi et leur témoignage. Nous devons veiller à ne pas critiquer ou juger les personnes qui ont des problèmes, qu'ils soient grands ou petits. Toutefois, ces personnes doivent faire tout ce qui est en leur pouvoir pour édifier leur foi et leur témoignage. Le meilleur moyen de résoudre ces problèmes ou de répondre à ces questions est d'étudier, de méditer, de prier, de vivre les principes de l'Évangile avec patience et humilité et de tenir conseil avec les dirigeants appropriés. Certains ont affirmé qu'il y a plus de membres qui quittent l'Église aujourd'hui et qu'il y a plus de doutes et d'incrédulité que par le passé. C'est tout simplement faux. L'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours n'a jamais été aussi forte. Le nombre de membres de l'Église qui demandent à ce que leur nom soit rayé des registres de l'Église a toujours été très petit et a été nettement moindre ces dernières années que par le passé. L'augmentation dans des domaines mesurables tels que le nombre de membres dotés qui ont une recommandation valide à l'usage du temple, d'adultes payeurs de dîmes complètes et de personnes qui sont en mission, a été spectaculaire. Je le répète, l'Église n'a jamais été aussi forte. Mais souvenez-vous que les âmes ont une grande valeur aux yeux de Dieu. Nous tendons la main à tout le monde. Si les dures réalités que vous connaissez en ce moment vous paraissent sombres, pénibles et presque insupportables, souvenez-vous que dans les ténèbres angoissantes de Gethsémané et dans le supplice et la souffrance incompréhensible du calvaire, le Sauveur a accompli l'expiation qui se charge des fardeaux les plus terribles que l'on porte dans cette vie. Il l'a fait pour vous, il l'a fait pour moi. Il l'a fait parce qu'il nous aime et parce qu'il obéit à son Père et qu'il l'aime. Nous serons sauvés de la mort, même si nous sommes perdus dans les profondeurs de la mer. Notre justice personnelle et celle de notre famille, les ordonnances de l'Église et suivre le Sauveur assureront notre protection dans cette vie et dans l'éternité. C'est notre refuge contre la tempête. Vous qui avez l'impression d'être seul, vous pouvez rester ferme dans la justice, sachant que l'expiation vous protégera et vous bénira au-delà de votre compréhension. Nous devons nous souvenir du Sauveur, respecter nos alliances et suivre le Fils de Dieu comme le jeune tournesol suit le soleil. Nous trouverons la joie, le bonheur et la paix en suivant son exemple et sa lumière. Comme le psaume 27 et l'un de mes cantiques préférés le proclament, l'Éternel est ma lumière et mon salut. En ce week-end de Pâques, en ma qualité d'apôtre du Sauveur, je témoigne solennellement de la résurrection de Jésus-Christ. Je sais qu'il vit, je connais sa voix, je témoigne de sa divinité et de la réalité de l'expiation. Au nom de Jésus-Christ. Amen.
Our Father in heaven,
notre cher Père Céleste, à la fin de cette session inspirante, nous t'exprimons notre reconnaissance pour les messages puissants, pour la magnifique musique et pour ton esprit qui nous a accompagnés. Nous sommes reconnaissants pour le privilège que nous avons eu au cours de cette session de soutenir le président Monson comme ton prophète voyant et révélateur sur la terre aujourd'hui, ainsi que ses conseillers et les 12 apôtres et les autres appels. Père, nous les aimons et nous sommes reconnaissants pour leurs enseignements. Nous sommes également reconnaissants pour toutes les autres personnes qui ont été soutenues aujourd'hui et pour les personnes que nous avons remerciées pour leur service fidèle. Nous te prions qu'ils puissent ressentir notre amour et notre reconnaissance. Et en ce week-end de Pâques, comme nous l'avons entendu de la bouche des apôtres, nous exprimons notre reconnaissance pour l'expiation de ton Fils Jésus-Christ. Puissions-nous aller de l'avant et nous efforcer de devenir de meilleurs disciples de ton Fils Jésus-Christ. Nous prions pour cela. Au nom de Jésus-Christ, amen.
This has been a broadcast of the 185th annual
General... Vous venez d'assister à une session de la 185e conférence générale d'avril de l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours. Les orateurs étaient choisis parmi les autorités générales et les officiers généraux de l'Église. La musique de cette session était interprétée par un chœur composé de membres de pieux d'adultes seuls des comtés de Davis et Weber. Cette émission a été diffusée à titre de service public par Bonneville Distribution. Toute reproduction, enregistrement, transcription ou autre utilisation de cette émission sans autorisation écrite est interdite.